Le patriarcat est une narration et elle a fait son temps.
Aujourd'hui, nous vivons encore les conséquences de l'esclavagisme et du colonialisme.
Sous la chape du silence,
nos cœurs vibrent et hurlent.
La vie palpite.
De l'air.
Pour faire notre chemin dans ce monde, nous avons besoin de force et de nuance.
Nous voulons partager ce qui nous tient.
Nous bouge.
Nous bouleverse.
Nous traverse.
Nous voulons prendre le temps de déployer nos audaces.
Pour se délecter ensemble
des singularités.
C'est pas du courage, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi.
Et la poésie, ça casse les frontières. Et c'est cet espace pour l'imagination qui m'a permis d'accumuler de la force et de livrer mes batailles.
L'éclat des noctules, une émission féministe, radicale, tendre, joyeuse.
Sur Roi du Royan, 93 FM.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
C'est les noctules du mois d'avril 2025. Et ce mois-ci, on voulait vous parler d'adolescence. Pourquoi ? Parce que c'est un moment important dans la vie. Et vu comment les adultes sont des bolos, on compte sur les ados pour redresser la barre.
L'adolescence, c'est relatif selon les endroits du monde et les époques. Mais ce qui nous plaît dans ce moment, entre l'enfance et l'âge des responsabilités, c'est que c'est là que se joue la construction de ses idées propres, de son identité, qu'on se fait une carapace pour cacher sa vulnérabilité, qu'on est aux prises avec des émotions intenses et des questions existentielles, qu'on se cherche une place dans le groupe et dans le monde, et qu'on explore tout un tas de trucs.
Alors, on côtoie des ados, mais vous n'entendrez pas dans cette émission parce qu'ils n'ont pas voulu causer dans notre micro. Bon, alors comme pour plein d'émissions, comme l'émission sur la mort, par exemple, on a envie de faire un numéro 2 où on ferait parler des ados.
Entre plein d'autres choses aussi.
Bien entendu, mais l'idée ce serait de leur donner le micro, donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez faire de la radio, vous pouvez nous contacter à notre adresse mail noctule@mailo.com ou à nous envoyer une lettre à Radio Royan, Office du Tourisme, Place de l'Église, 26190, Saint-Jean-Royan. Pour participer à l'émission numéro 2 sur l'adolescence, ou même si vous voulez juste nous envoyer des mots doux, on lira tout.
Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de carte postale, et nous, on aime bien. Bon, ça c'est pour l'émission numéro 2, mais d'abord on va commencer peut-être par une numéro 1.
On commence par le début.
On commence par le début. Alors, qu'est-ce que vous allez entendre aujourd'hui ? Eh ben, de la culture, du livre, du théâtre, de la série télé et Netflix. Une playlist des années 90, parce que bon, l'adolescence, c'est pas la même époque pour tout le monde, hein Gaël ? Des chroniques éparses sur la santé mentale et sur la santé sexuelle des ados.
Alors cette émission, ma foi, cette émission, c'était un petit peu dernière minute, quoi. Et comme j'ai pas vraiment réussi à préparer l'émission comme prévu, eh bien j'ai décidé de vous faire des chroniques culture. Et ce matin, exceptionnellement, ce n'est pas une production culturelle, mais bien deux que je vais vous présenter.
Ah ouais, Jojo, tu nous gâtes.
Oui. Alors, on va commencer par du théâtre. Donc, la première chose dont je voulais vous parler, c'est une pièce qui s'appelle « Plutôt vomir que faillir », qui a été créée en 2021 par Rebecca Chaillon et produite par la compagnie qu'elle a, qui s'appelle « Dans le ventre ». Elle a été écrite, cette pièce, et mise en scène par Rebecca Chaillon elle-même et les comédiens et comédiennes de la pièce. Alors, c'est Chara Afouyoun, Zachary Bayri, Mélodie Loré, Anthony Martin, Sekou Dramé et Yasmine Dong Abdoui. C'est une pièce donc avec 4 comédiens et comédiennes, mais la distribution a changé entre-temps, donc c'est pour ça que là, je vous ai cité 6 co-auteurs, co-autrices. On va d'abord en écouter un petit extrait pour voir un peu à quoi ça ressemble.
Et tout rendre, ingérer, sans digérer, sans intégrer. Plutôt bouffer qu'être en reste, plutôt risquer que regarder, plutôt vomir que faillir.
Merci pour votre participation. Eh bien, au revoir tout de même. Bon appétit.
Alors, vous avez bien entendu, c'est une pièce avec de la poésie et ça parle de bouffe. Comme dans l'autre pièce de Rebecca Chaillon qu'on a vue avec Céline et qui s'appelle Carte noire nommée Désir, qui est une pièce sur l'exotisation du corps noir et sur le racisme en général. Vraiment une pièce incroyable. Malheureusement, elle n'est plus jouée.
Et oui, elles ont arrêté de tourner, ça y est, c'est fini.
Mais peut-être qu'il y aura une captation à voir un de ces jours. En tout cas, cette pièce, eh bien, il y avait aussi de la bouffe dedans parce que c'est toujours important dans les pièces de Rebecca Chaillon. Rebecca Chagnon aussi, c'est une performeuse et ça se voit dans le spectacle. Il y a beaucoup de corps, il y a de la danse, il y a du jeu avec les objets. Et les comédiens sont noirs, arabes, juifs, trans, homo, mais aussi hétéros. Et donc, dans cette pièce, ils vont tour à tour avoir un moment pour parler de leur adolescence, de leur rapport aux autres, aux adultes, à la famille. Ils parlent d'héritage culturel, de racisme, d'homophobie, de solitude, du besoin de reconnaissance et de plaire. Il y a beaucoup de choses, en fait, dans cette pièce. Moi, elle m'a plu parce que, c'était protéiforme. Et ce qui est intéressant dans cette pièce aussi, c'est que Rebecca Chaillon dit que c'est celle qu'elle aurait voulu voir quand elle était ado. Donc forcément, on a envie de savoir qui elle était, Rebecca Chaillon, quand elle était ado. Et elle l'a expliqué à la radio publique. Alors, on va l'écouter.
C'est drôle parce que je reconnecte beaucoup avec mon adolescente, ne serait-ce que parce que de mon habillement aujourd'hui, par exemple. J'ai reconnecté avec... une adolescente qui se demandait pourquoi il n'y avait pas de Barbie noire. Donc je me faisais appeler comme ça et j'étais très colorée, très dans une envie d'être présente même dans le regard des gens tout le temps, avec une sensation parfois de manque de communication et de manque de visibilité au sein de ma famille ou en tout cas un problème de verbalisation de qui on est, de qu'est-ce qu'on vient faire là. Donc j'ai toujours eu besoin de d'exulter à l'extérieur par mes vêtements. Donc là je porte un magnifique ensemble rose. Je suis quelqu'un très pop, très télé, très à l'époque en tout cas, et toujours un peu aussi. J'aime beaucoup, je connais toutes les paroles des chansons, on m'appelle le jukebox. Comment on fait pour digérer une culture qu'on peut juger, enfin qu'en tout cas moi j'ai pu juger honteuse à un moment en confrontation avec mes camarades du conservatoire ou de la Sorbonne quand j'ai fait mes études. Comment on se la réapproprie, comment on la transforme en intelligence, comment on transforme le gavage télévisuel en un imaginaire, en une écriture. J'ai toujours été déléguée de classe et j'ai jamais su pourquoi, parce que j'étais quand même pas très à l'aise dans ma peau, mais au final je me sens encore assez déléguée de classe dans ma manière de travailler, d'amener des gens avec moi en disant mais si tu as ta place, mais si je vais te sauver au conseil.
Et Rebecca Chaillon, elle fait bien ce qu'elle dit dans cet entretien, dans cette pièce, elle est déléguée de classe, elle donne sa place à chacun et elle les rassure sur leur présence au monde, je dirais, et du coup elle nous rassure nous aussi sur tout ce qu'on a le droit d'être, tout ce qu'on a le droit d'exprimer. Il y a par exemple un moment filmé à l'épaule, un truc un peu gore, genre film d'horreur, retransmis sur l'assiette géante qui est au milieu de la pièce, en hauteur, de la scène, pardon, c'est pas une pièce, puisque c'est du théâtre. Et donc dans ce film un peu gore, on voit des boutons qui explosent, des règles qui déferlent, des poils qui envahissent le corps comme un loup-garou. Il y avait beaucoup d'ados présents dans la salle et ils ont beaucoup rigolé. Ça avait l'air d'être vraiment un gros soulagement pour eux de pouvoir voir et entendre tout ça. C'est pop aussi, donc dans ce qu'elle revendique de la réappropriation de la culture pop, de la culture, enfin populaire, de la culture télé. C'est pop dans les couleurs parce que chaque personnage en a une, comme les Power Rangers. Mais par contre, ils sont hyper fortes et forts comme les Power Rangers, mais ils montrent leurs faiblesses et ça c'est hyper bien parce que d'habitude les Power Rangers ça fait pas ça. Et sinon il y a un mur de micro-ondes aussi sur cette scène, sur ce plateau. Et ce mur de micro-ondes sert à faire des confidences sur un modèle mi-émission de télé-réalité, mi-harcèlement. Donc on rit, mais en même temps on grince des dents, on sait pas trop. Finalement c'est un peu comme ça aussi à l'adolescence, je trouve. C'est ces moments où on rigole beaucoup, mais on se prend un peu des vannes en permanence. Du coup, c'est pas si simple, quoi. La culture télé, elle est aussi présente à un moment où il y a un comédien qui raconte son coming out, qui raconte comment il fait son coming out et du coup comment son père le reçoit. Tout ça en doublant en direct un épisode des Simpsons, qui est lui aussi reprojeté sur cette assiette géante. Bref, c'est une belle pièce sur l'adolescence, je trouve. S'il y a un truc à redire, ce serait que c'est un peu attendu, les confidences des unes et des autres, les uns après les autres. Mais quand même, moi j'ai hâte de voir les prochaines pièces de Rebecca Chaillon. Pour le moment, il n'y a pas de nouvelle date de prévue, mais restez à l'affût, c'est pas dit que ce soit fini. Ça s'appelle « Plutôt vomir que faillir », c'est la compagnie dans le ventre qui l'a produit. Voilà.
Waouh, ça donne envie. Bon, sauf le truc des boutons qui explosent, là.
Si, moi, j'adore. J'adore.
Bon, pour continuer, on va passer un extrait de lecture de Chico, qui n'est pas ici présente avec nous parce qu'elle a d'autres engagements. Et oui, c'est ça la vie. Elle nous a fait des lectures et cette première lecture, c'est celle d'un livre pour ados que d'ailleurs, Jo, tu lui as offert. Millepertuis, la sorcière sans nombril de Julia Thévenot. On suit l'histoire d'Ortie, une jeune sorcière qui vit avec sa mère et ses deux sœurs. Elle a plus de nombril parce qu'elle a perdu son or, le point cardinal du dedans qui la guide dans la vie. C'est une petite ambiance, vous allez entendre. Le papier au lait, c'est super. On écrit le nom de quelque chose sur le papier, on le trempe dans le lait et le lait prend le goût de ce qui est écrit. On écoute.
Chapitre 8. Le goût de l'aventure.
Sans doute était-ce parce qu'elle avait perdu son or, ou peut-être était-ce par pure adolescence. Mais dès le réveil, Horty s'ennuyait à crever. Il y avait toujours, planant dans son crâne, la vieille quête de son or déplacé, bien sûr. Mais puisqu'elle avait retrouvé sa magie, sans subir coma, folie, mort ou pire, ça n'était plus si urgent, se disait-elle quand parfois elle y repensait. Car, et c'est là le secret de l'adolescence, ses problèmes profonds étant trop paralysants pour y penser vraiment, Horty préférait se divertir en devenant absurdément compétente dans des domaines niches. Elle était depuis longtemps sortie du champ des expérimentations autorisées en matière d'incantation. Tante Antigone, une fois sur deux, s'inquiétait de ce que bidouillait son élève. Les autres cours particuliers d'Horty, un à un, avaient pris fin. Les professeurs avaient fait leur job pendant une semaine, un mois, une année, puis n'avaient pas été remplacés. Sa mère ne s'intéressait plus à ses progrès. Seul Pilloso, le professeur d'algèbre perpétuellement enchanté, avait tenu jusqu'ici. Il y avait longtemps qu'Horty ne faisait plus de maths avec lui. Elle discutait, lui soutirait un tas d'informations sur les communs, leurs habitudes, leurs petits mystères, la part de vrai et de faux dans le miracle télévisuel, qui restait sa principale source d'informations. La veille, à force de l'entendre parler de son fils, jeune bachelier, maître nageur pour l'été, Horty avait fini par lui soutirer son prénom. Aussi, ce matin-là, levée vers 11h, s'occupa-t-elle à préparer une invocation pleine d'intention. Après quelques minutieux exercices de dessin millimétré sur son tapis d'incantation, elle fit apparaître dans sa chambre le bel Hugo Pilloso, en maillot de bain floqué au nom du centre aquatique du lac, un filet autour du cou. Il avait un nez comme une patate, mais des cheveux remarquables, d'étranges fossettes asymétriques et de rebondis pectoraux. Avec quelques sorts rimés, il se laissa persuader qu'il s'était rencontré à la piscine samedi dernier. Ils roulèrent sur le bord du lit pour discuter. 18 ans, pas trop nouille, assez gourmand, il était parfait. Horty le convainquit facilement de lui enseigner la brasse dans les draps de son lit de place. Le truc, c'est qu'évidemment le garçon aux joues roses, tout amolli de plaisir, voulut repartir par les escaliers et croisa Omphale d'Alembrun qui revenait du jardin. Si elle était honnête avec elle-même, Horty devait reconnaître qu'elle avait à moitié fait exprès de le placer là, sur le chemin de sa mère. Celle-ci, brandissant son sécateur, l'hypnotisa si fort qu'il s'enfuit en se bavant sur le menton et en se cognant dans les murs. Après quoi, maman se tourna vers Horty, sécateur toujours levé. « J'ai cru que vous vous en étiez fait un familier » soupira-t-elle. Savourant l'inquiétude de sa mère, Horty hésita à lui faire croire que c'était effectivement ce qu'était devenu Hugo, mais se souvint qu'il n'aurait jamais pu quitter le foyer si elle l'avait lié à elle de cette façon. « Qu'est-ce que ça peut vous faire, hein ? Et alors, si je m'en faisais un ?» jeta-t-elle en vrac au visage de sa mère. « Vous avez toujours été très volontaire, » reprit Omphale. « Mais vous voudrez bien attendre vos 15 ans avant votre premier familier, ma chère, comme toutes les sorcières. » Ce fut son seul commentaire. Horty grimaça dans son dos un « gna 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 » très saoulé. Elle n'en pouvait plus d'entendre la phrase « comme toutes les sorcières ». Ça lui déclenchait de l'urticaire. Le lendemain, au petit déjeuner, elle eut envie de raconter à ses sœurs l'expérience sensorielle, mécanique et mystique de la brasse dans un lit de place, mais Épine et Ronce se disputaient sans lui prêter attention. « Rends-moi le beurre, croûte de genoux !»« Viens me chercher, addition ratée !»« Piercing surinfecté !»« Vieux congélateur !» À les entendre, elle se demanda si sa bêcheuse d'aînée, malgré ses 19 ans et sa sauvage de cadette du haut de ses 13 ans, aurait le moindre début de compréhension de son expérience sensorielle avec Hugo Pieuxsau et si ça valait bien le coup d'essayer. C'est moi que tu traites de congélateur ? Cria Ronce. Fromage de culotte ! Poison mal dosé ! Les filles ! Onfal venait d'entrer dans la cuisine. La dispute s'interrompit aussitôt. Horty, j'ai renvoyé le professeur Pieuxsau, annonça maman par-dessus les vibrations de la machine à café. Vous êtes au point en algèbre, je crois. Horty eut à nouveau envie de répliquer gna gna gna, mais rougit à la place et se détesta de le faire. Elle se servit un bol de lait pour y tremper son papier. Descendu à pas veloutés des escaliers, Maxence s'approcha alors d'Onfal d'Alembrun, s'assit à ses pieds dans son bas de pyjama rayé, puis frotta sa tête contre son mollet. Maman lui gratouilla la nuque avec affection, tout en regardant couler le café. Les trois sœurs fixèrent la scène sans mot dire. Horty aimait bien Maxence au début. Puis un matin, derrière son café, il s'était machinalement léché le poignet. Horty avait hoqueté de rire, par surprise. Néanmoins, ça n'était qu'un signe avant-coureur et elle avait vite cessé de rigoler. Sa mère, quand elle se lassait du corps de son amant, de sa présence, sa voix, ses colères, ses rêves, ses questions, quand elle se lassait de lui, en somme, le transformait en chat. Un joli félin, au pelage chameau. De temps en temps, comme ça. Elle l'aimait toujours ainsi, et lui aussi, à l'évidence. Après tout, il quémandait ses gratouillés. Seulement, à force de trop le faire, Maxence perdait ses repères. Il était de plus en plus félin, lorsqu'il reprenait forme humaine, de moins en moins humain, sous son poil de chat. Son joli pelage chameau. Un jour, songea Horty en surpant son lait, il serait tout à fait parti. Puis, un jour plus lointain encore, elle aurait oublié que ce chat-là avait été un jeune homme blond aux yeux noisettes qui s'était tenu debout dans la cuisine face à elle. À cet instant, dans un grand mouvement félin, Maxence s'allongea entièrement sur le carrelage pour s'étirer, et ce faisant, perdit quelque peu le bas de son pyjama, laissant voir ses poils pubiens, d'un blond cendré presque roux, la couleur de son pelage de chat, exactement. Erk, protesta Épine en repoussant son journal. Bon, j'avais fini de toute façon. Ronce lança après elle. Range tes affaires, espèce de denture jaunioté. L'aîné partit rejoindre son cénacle. Ronce et maman montèrent au grenier pour leur leçon de la journée, et Maxence alla se rallonger sur le canapé. Horty resta là à tartiner sa baguette. Distraitement, elle jeta un œil au journal local, celui dans lequel sa sœur, chaque matin, cherchait en vain sa prochaine mission. Épine était affectée à la surveillance des grêles. Rien d'intéressant à signaler. Sauf la date. On était le 4 mai. Dans 24 heures, elle atteindrait, en tant que sorcière, cette sorte de liberté qu'on appelait majorité. Enfin ! Horty savait qu'elle avait moins que toute chose l'envie de se faire un familier. Cependant, elle ne savait pas quoi faire de sa peau ni de sa liberté. Quand elle était petite, elle rêvait à des tas de trucs. Impossible de remettre le cœur sur la plus petite idée, le moindre projet. Elle avait décidé depuis longtemps que le jour de ses 15 ans, elle décamperait, bien sûr. La valisette était prête. Mais décamper pour aller où ? Faire quoi ? Avec qui ? Soupirant, Horty finit son bol. Ce matin-là, sur son papier au lait, elle avait écrit « L'aventure ». Le lait avait un goût piquant, légèrement tourné.
Alors, vous avez entendu « Millepertuis » de Julia Thévenot. Moi, je voudrais ajouter que quand même, ce roman est super parce qu'il est, il est bien gore. Il y a plein de moments où il y a plein de sang partout. Et moi, j'adore. Voilà. Et je voulais vous dire aussi, parce que c'est le moment où on vient de recevoir un petit mail, là, en fait, on va arrêter les noctules, parce que, en fait, il y a Arte Radio qui nous a envoyé un mail pour nous dire qu'ils avaient envie de nous produire. Du coup, bah, voilà, je pense que ce sera notre dernière, puisqu'en fait, on va commencer bientôt, quoi.
Je croyais que c'était France Culture.
Non, bah là, écoute, j'ai l'impression que...
C'est Arte.
Ouais.
Mmh. Chouette, ouais. Hein.
Ça, on va peut-être gagner des sous, quoi. C'est
pas mal. La gloire. On va avoir de la gloire et de l'argent. C'est donc ce mardi 1er avril qu'on enregistre cette émission des Noctules du mois d'avril sur Radio Royan 93 FM. Le 1er avril, c'est aussi les 30 ans de radio de Gaëlle. Je ne sais pas si vous imaginez, mais Gaëlle, ça fait 30 ans qu'elle est à Radio Royan. Alors, elle ne veut jamais parler dans le micro, mais quand même, on le dit.
Les gens se demandent si tu existes, Gaëlle, hein, je pense.
Ouais, on n'arrête pas de parler de toi. Mais
ce n'est pas un personnage inventé.
C'est un personnage fictif, en fait, Gaëlle.
Moi, je me suis dit que l'adolescence, c'est aussi pas mal de musique, des clips sur MCM ou MTV que je matais avec ma sœur pendant des heures, affalée sur le canapé parental.
M6 aussi.
Mais j'avais pas M6 moi, désolée. Hein. Mais... avec mon Discman aussi qui rentrait dans la poche de ma veste. Ouais, je sais, je suis un peu une boumeuse parce que certaines d'entre vous ne savent même pas ce que c'est un Discman. Non,
si, vous, quand même. Ouais,
nous, oui,
ouais,
mais
ouais.
Les jeunes qui nous écoutent, le Discman.
Oui, avec tous les jeunes qui nous écoutent.
Je me suis dit aussi que j'allais me faire plaise et que c'était l'occasion de rentabiliser notre cotise à la SACEM, de faire ce petit montage. Alors, vous allez voir, il n'y a pas que du bon. Hein. Il y a des transitions un peu scandaleuses faites à la machette aussi. Mais voilà, c'est le bonheur de l'adolescence, c'est le bonheur du medley. Je m'excuse d'avance si je fais saigner vos oreilles. Et aussi, il n'y a pas de Mylène Farmer. Désolé, Gaëlle, je sais que t'écoutais ça à l'adolescence, mais voilà, je l'ai pas mis. Et aussi, j'aimerais dédicacer ce medley à mon amie Élise, parce que c'est pour elle que je l'avais fait à la base, mais je lui ai jamais donné. Alors j'espère qu'elle écoutera cette émission.
Ah ben ouais, Élise écoute quand même.
Ben voilà, voilà, on envoie.
Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady. called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you and him, they give him a little trim to begin. How you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again? Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. Yeah. If you did it then, then you probably can.
No, I don't want your number. No, I don't wanna give you.
Casse les voitures.
Tu feras déserter les terrains de jeu.
Il marche à peine et veut des bottes de 7 lieux.
Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère.
It's not me.
Ça danse dans le studio de Radio Royan ce matin sur ce petit medley. Bon, alors ça danse haché parce que quand même les transitions sont un peu... Enfin voilà. Mais voilà, c'est à peu près tout ça que j'écoutais.
Tu l'as fait avec des cassettes, non? T'as mis play.
Non, j'avoue, j'ai... Non. Mais j'aurais pu.
Alors, on comprend pas bien.
Et je voulais quand même, parce que c'est mon petit côté blind test, mais vous savez, en quelle année c'était Eminem?
Il y a longtemps.
97.
Ah, presque.
18.
2000. C'était quand même en 2000,
Eminem.
Ah, c'était
Eminem. En 2000. Ah oui, c'est vrai, c'était après.
Ouais. Bon, voilà. Je sais pas, qu'est-ce que vous écoutiez, vous, quand vous étiez ado?
Moi, je vous le ferai écouter à toute fin de l'émission.
Mmh. Et ben moi j'avais
No Doubt.
No Doubt, voilà, ce que j'allais dire No Boots, mais c'est autre chose. No Doubt sur ma première cassette que j'avais acheté moi-même avec mon argent de poche à Virgin Megastore à Marseille.
Et moi j'avais acheté Ace of Base en single, vous vous rappelez, c'est à l'époque qu'on pouvait acheter des CD. Alors quand même en termes écologiques c'est quand même questionnant, mais il y avait que deux chansons dessus. Mais
un single, ça s'appelle.
Un single. Et voilà, on allait à la Fnac chercher ça. Je sais pas combien ça coûtait à l'époque. Je parle comme une vieille.
Je crois que c'est 10 francs, moi, j'aurais dit comme ça. Un moment, en tout cas, ça coûtait 10 francs.
Ça y est, on va se transformer en juste prix. Le prix d'un single, Gaëlle, tu sais, toi 10, 15 balles.
Il y en a plein, la recyclerie de Saint-Laurent.
Ah.
Ouais, mais si jamais t'en cherches encore.
Ah, super. Bon, je vais peut-être faire un tour à la recyclerie. Bon, voilà. J'espère que ça vous a donné envie de réécouter tous ces tubes des années 90-2000. Enfin, fin 90-2000. Parce que c'est un petit peu indémodable. Voilà.
Alors là, maintenant, on continue dans la culture, mais dans la culture actuelle, parce que je vais vous parler d'un blockbuster de Netflix. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de la série...
Sex Education.
Non.
Adolescence.
Bravo.
Ah voilà, j'en étais sûre.
De toute façon, c'était l'un ou l'autre.
Mais j'ai dit autre chose pour tromper un peu. Parce
que c'est gentil. Alors voilà, il y a beaucoup de gens qu'on a entendu parler, mais quand même, j'ai quand même envie d'en parler, moi aussi, parce que c'est une série britannique qui est diffusée sur Netflix, mais qui est aussi déjà bien piratée, donc pas de problème pour aller la voir ailleurs. Et elle est en ligne sur Netflix depuis le 13 mars. Elle a été écrite par deux mecs, Stephen Graham et Jack Thorne. Je redoutais ce moment où je dirais Thorne, mais ça va.
Et en fait, tellement tu le redis, quoi.
Oui, mais j'avais besoin. Oui. De...
Non, mais je...
C'était pour évacuer le stress. Juste pour vous dire que c'est pas notre habitude de parler de réalisation de films ou de séries de mecs cisgenre, mais là, je trouve que ça vaut quand même le coup. Parce que c'est un truc qui a été, bon, qui a eu un grand succès, qui a été beaucoup regardé. Donc je vais quand même vous rappeler plein de choses, et pour les gens qui n'ont pas regardé, eh ben je vais tout vous spoiler, donc attention. Et puis je vous fais aussi un petit trigger warning, il y a quand même pas mal de violence. C'est très bizarre là, du coup tout le monde se bouche les oreilles dans le studio, je parle seulement avec vous. Alors c'est une série en 4 épisodes d'environ 1 heure qui parle d'un ado de 13 ans qui a poignardé sa camarade de classe parce que il a adopté les infectes théories masculinistes qui pullulent sur les réseaux sociaux. Pour le moment, nous n'en sommes qu'à la première saison, alors l'ado est en prison et l'enquête suit son cours. Il y a plusieurs choses que j'ai trouvées très intéressantes dans cette série. D'abord, elle aborde le sujet du masculinisme, dernier sursaut du patriarcat, mais qui fait beaucoup de victimes, malheureusement. Déjà, ça s'inscrit dans un moment où il y a beaucoup de féminicides, d'assassinats au couteau qui ont été perpétrés au Royaume-Uni, et que les gros fachos ont dit que c'était de la faute à l'immigration. Les auteurs de la série, qui sont pas cons, ont été accusés de racisme anti-blanc, parce que le personnage de l'assassin, l'ado, est blanc. Mais ils s'en sont défendus en disant que, je le cite, « C'est absurde de dire que cela ne concerne que les garçons noirs, c'est pas vrai. Il n'y a aucune partie de cela qui soit basée sur une histoire vraie, pas un seul élément. Nous ne faisons pas un point sur la race avec cela. Nous essayons de comprendre un problème. » Voilà, je trouvais ça intéressant de dire qu'en fait, il parle d'un problème, déjà, parce que, voilà, il fallait problématiser le fait que le masculinisme est en train de gagner pas mal de terrain chez les adolescents, et de dire que, peut-être, il y a des personnes racisées qui ont perpétré des féminicides, mais que c'est pas là la question. La question, c'est comment est-ce que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel adolescent. Donc, les ados, dans cette série, expliquent la théorie de la pilule rouge et de la pilule bleue. Ça vous rappelle quelque chose ?
Matrix.
Bravo.
Moi non plus.
Ok, vous avez pas vu Matrix, ok. Et eh ben d'accord.
Ouais, on peut faire des coming out tous les jours à la radio si on veut.
On va faire des rattrapages quand même sur l'adolescence. Donc du coup, alors cette théorie de la pilule rouge et de la pilule bleue, en gros, c'est les hommes qui choisissent. C'est un truc où en fait tu dois choisir, quoi. On te donne à choisir entre la pilule rouge et la pilule bleue. Donc ça concerne là que les hommes. Les hommes qui choisissent la pilule rouge sont ceux qui ont tout compris aux femmes, parce qu'en fait, les femmes sont décrites comme des êtres pervers, des personnes qui trompent, qui ne cherchent que l'argent. Donc ces hommes qui choisissent la pilule rouge sont des hommes qui ne se marient pas et qui traitent les femmes comme des objets sexuels. Ceux qui choisissent la pilule bleue, en revanche, sont ceux qui, dans cette dangereuse théorie, débile théorie, c'est les hommes qui n'ont rien compris et qui ont un rapport normal avec les femmes, les considérant comme des personnes et pas des objets. Donc ces personnes-là se marient, ont des amies femmes. Voilà, bien entendu, les personnes qui propagent cette théorie nauséabonde sont homophobes. Elles promeuvent la violence, le féminicide, des violences homophobes. Voilà, enfin juste, je vous fais un panneau complet. C'est l'horreur, mais il faut quand même tout dire. L'autre théorie qui est décrite aussi, c'est l'histoire des 80-20% dans cette série. Je veux dire, les ados en fait expliquent ça aux adultes, en disant que du coup il y a seulement 20% des hommes qui plaisent aux femmes, et que c'est ces hommes-là, ces hommes qui sont dégueulasses, quoi, en gros, et que les autres, ils ont rien compris, quoi. Voilà. Tu veux rajouter un truc, Anaïs ?
Non, mais j'avais pas compris, pardon, que c'était dans la série que les ados expliquaient ça.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est les ados qui expliquent ça, en fait.
Les ados masculins, c'est ça ?
Les ados masculins. Donc, du coup, voilà.
Brrr.
Voilà, ça fait froid dans le dos. Donc, c'est terrible.
Ça a l'air super.
Non, mais je sais, c'est un peu horrible. Mais en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont vu cette série, au Royaume-Uni, mais aussi dans d'autres pays, où elle a été comme une piqûre, comme un réveil, quoi, pour beaucoup de parents face au danger des réseaux sociaux. Et même, ils en ont parlé dans le Parlement, au Royaume-Uni, dans leur assemblée, quoi. Et du coup, il va y avoir une diffusion de cette série dans les écoles, avec un débat organisé ensuite entre les élèves pour pouvoir aborder ce sujet. Donc moi, je trouve ça plutôt très malin.
Bah ouais.
Les autres choses qui sont intéressantes dans cette série, c'est qu'il y a un duo d'enquêteurs qui... Les acteurs sont tous très bons, mais du coup, le duo d'enquêteurs, j'ai trouvé très bien aussi. L'enquêteur en chef, il s'appelle l'inspecteur Bascombe. Lui, c'est un... Enfin, il est noir. C'est un mec qui a aussi un enfant qui est dans l'école, qui est du coup... dans laquelle il y a les autres enfants, donc la victime et l'assassin. Et lui, en fait, il comprend pas grand-chose aux réseaux sociaux au début, donc il se fait, entre autres, expliquer ses histoires de théorie de pilule bleue et rouge par son fils. C'est intéressant, je trouve, de voir ce décalage, en fait, entre, du coup, les générations. Et ce inspecteur Bascombe travaille avec le sergent Franck, donc c'est une femme. Et en fait, parfois, on oublie de citer son nom dans le film, et on le voit. Enfin, je veux dire, c'est clairement mis en lumière qu'en fait, elle est oubliée parce qu'il y a un type dont on dit le nom avant le sien, quoi. Elle est bouleversée à un moment quand elle est dans l'école et qu'ils interrogent les autres élèves, parce que elle dit c'est toujours le tueur dont on parle, l'auteur du féminicide. Et en fait, on parle pas de la victime. On s'interroge vraiment que sur lui. On parle très peu d'elle. Et en fait, c'est son nom à lui qui va être celui qu'on va retenir. Et du coup, elle est bouleversée par ce truc-là. Et c'est vrai. Enfin, je veux dire, quand ça devient des faits divers, souvent, on parle peu. Ouais. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. À part ça, cinématographiquement parlant, la série est très bien réalisée. Il y a beaucoup de plans séquences très beaux et aussi une caméra qui bouge hyper bien, qui suit les personnages dans plein d'endroits, mais sans donner la gerbe, parce que moi, des fois, les trucs de caméra qui bougent trop, ça me donne la gerbe. Là, non. C'était pour faire un petit lien entre la pièce de théâtre qui parle de vomi et la série qui parle pas de vomi.
Mais par contre, les trucs gore, ça te file pas la gerbe. Juste les plans séquences.
Les plans séquences qui bougent. Non, les plans qui bougent trop au cinéma, ouais, c'est ça. Je vous ai déjà dit que les acteurs et actrices étaient incroyables. L'épisode numéro 3, il est vraiment... Enfin, c'est le plus fou, quoi. Parce qu'il y a un long moment où il parle avec une psy qui vient, en fait, vérifier comment fonctionne son entendement, quoi, à ce garçon. Et c'est un huis clos assez dingue. Je vous en dis pas plus, vraiment, ça vaut le coup. Voilà, donc je vous ai parlé de ça parce que je trouve ça beau et je trouve ça fort de voir que le cinéma sert à sensibiliser des gens avec des vrais problèmes et nous aide à lutter contre le retour de bâton des gros réacs qui essayent de nous imposer leur point de vue sur le monde. Voilà, donc je voulais finir par vous dire que le patriarcat, on aura sa peau sur Internet et dans la vraie vie.
Ouais, moi tu m'as donné envie de le voir, hein, Jojo.
Ouais, moi aussi. Ben, merci Jojo. Ben, on continue avec toujours des trucs un peu culturels. Là, ça va être plutôt un livre. Et du coup, c'est encore un extrait que nous a lu Chico. Donc moi, je vais présenter un peu ce qu'elle nous a écrit à propos de cet extrait. C'est un livre qu'elle a trouvé à la médiathèque de Saint-Jean-en-Royans, qui lui a fait une immense joie. C'est « Non noyé, leçon féministe noire apprise auprès des mammifères marines ». Un livre d'Alexis Pauline Gumps. Gumps ?
Ouais. Ouais, c'est ça.
C'est ça. On avait parlé d'elle dans l'émission sur les microbes. Alors, quand elle a vu son nom dans les rayons, elle était ravie. Chico, toujours. Et puis, j'ai ouvert ce livre. C'est elle qui parle. Maintenant, je vais parler à la première personne, mais c'est Chico qui parle. Hein. Ne vous trompez pas. Et puis...
On se trompe.
Et puis, j'ai ouvert ce livre. Et là, c'était carrément un cadeau de ouf que j'avais entre les mains. J'ai choisi de lire des extraits de ce livre parce qu'à mon adolescence, j'aurais aimé lire et entendre comment c'était possible de lier révolution, amour, respect de soi, soin et douceur. Que c'était possible de se sentir lié aux autres êtres vivants et d'en apprendre, malgré la honte d'être humaine et le contexte désespérant. Que c'était possible, et même très puissant, de lier poésie, mouvements sociaux et méditation. Et aussi parce que je jugeais, étant ado, que les adultes qui m'entouraient n'étaient que des ados attardés, qui n'avaient pas cessé d'être centrés sur elle et leur quête de réussite sociale. Alors quand j'ai entendu, il y a peu, une dame avec un titre savant dire « L'humanité est à sa phase adolescente », je me suis rappelé mes observations et cette question qui me tourmentait. L'humanité va-t-elle évoluer ou disparaître ? Quand je pense aux ados d'aujourd'hui, je sais qu'elles se posent la même question, sans oser y croire. Et quand je suis au fond du trou, ça me fait retrouver la respiration de croiser de ces intelligences comme Alexis Pauline Gumps. Et je me souviens que même si les cons font vraiment beaucoup de bruit, ils sont peut-être pas si majoritaires que ça. Alors dans ces extraits, il y a des mots bizarres qui parlent de noms d'espèces ou de classifications. C'est pas grave de pas tout capter, hein. Au contraire.
Chapitre 1. Écoute. Comment écouter par-delà les frontières entre espèces, au milieu des extinctions et des souffrances ? Comment l'écolocalisation, une pratique utilisée par de nombreuses mammifères marines pour naviguer dans le monde grâce au rebondissement du son, modifie-t-elle la compréhension que nous avons de nos capacités de vision et d'action visionnaire ? Les réseaux sociaux ne sont-ils pas une technologie du rebond ? Une technologie qui permet de lancer nos messages et d'observer ce qui nous revient. Ici commence notre communion transespèce. Par l'ouverture d'un espace où célébrer la pratique de l'écoute. Nous n'oublions pas la démonstration, ni la preuve, ni l'importance d'apprendre à prendre la parole, mais nous apprenons aussi à écouter. Nous apprenons que l'écoute n'est pas seulement une capacité normative à entendre le déjà dit. Nous apprenons qu'elle est une ressource transformatrice et révolutionnaire qui exige de pratiquer le silence et l'accordage. Il était une fois une mammifère marine géante qui pesait jusqu'à 23 tonnes et qui nageait dans la mer de Bering. En 1741, un naturaliste allemand a découvert l'Hydrodamalis gigas, prenant ses aises dans une nage ample, au moins 3 fois plus grosse que la lamantin contemporaine. En 27 ans, l'espèce entière s'est éteinte, tuée lors de milliers d'expéditions européennes à la recherche de fourrures et de peaux de phoque. Donc elle sait ce que nous savons. Elle sait combien il est dangereux d'être découverte. 27 ans. Qui d'autre n'a pu survivre que 27 ans parmi les êtres humains venus de l'Ouest ? Jimi Hendrix, Jean-Michel Basquiat, même Amy Winehouse et Kurt Cobain. 27 ans, c'est une vie si courte. Comment faire le deuil et survivre à la violence d'être connu ? Comment le capitalisme détruit-il si rapidement ce qui a mis des milliards d'années à évoluer ? Que savons-nous au juste de cette mammifère subongulée, apparentée aux éléphants et aux oryctéropes ? Elle était entourée d'une large couche de graisse et on la chassait pour ça. On dit qu'elle ne pouvait pas chanter. Le seul son qu'elle émettait était sa respiration. Mais elle pouvait entendre à des kilomètres et des kilomètres. Quelle perte pour l'écoute. Comment pouvons-nous honorer l'archive de ta respiration ? Certaines disent que ta mort était purement accidentelle. Tu étais apparemment sur la trajectoire prisée de celle qui chassait les phoques et faisait le commerce de leur fourrure entre la Russie et l'Amérique du Nord. Pendant 27 ans, ça a été une sorte de ruée vers l'or, une ruée alimentée par l'appétit européen pour les chapeaux et les manteaux de fourrure. Tendance elle-même suscitée par la colonisation de l'Amérique du Nord, que les Européennes à la mode ont commencé à rêver comme une grande réserve inépuisable de fourrure. Elles étaient en route pour obtenir de la peau de phoque et de la fourrure. Yel s'imaginait qu'elle pourrait te tuer et te manger au cours du voyage. Est-ce qu'on se sent mieux maintenant ? Est-ce qu'on a le cœur réchauffé ? De savoir que ton extinction, la première extinction connue d'une mammifère marine causée par des êtres humains, a été un dommage collatéral dans la poursuite d'autres morts. Chère sirène rugueuse, que nous apprends-tu sur la respiration ? Chère grande végétarienne, que pouvons-nous faire quand notre écoute diminue ? Tu es plus qu'une preuve de la cruauté d'un monde dans lequel la peau est vendue à prix d'or. Tu es plus qu'un témoignage parmi d'autres des conséquences désastreuses des expéditions européennes. Plus qu'un crime à charge contre les ruées et les conquêtes. Plus que la folie d'un mode de vie dominant qui a bouleversé la planète sans s'en être soucié, sans rien dire et sans qu'on puisse faire retour en arrière. Tu es plus que la toxicité de cette soif insatiable lancée à la poursuite des choses, ce rêve de luxe qui menace ta survie. Cette soif t'a survécu, et je sens qu'elle est à mes trousses. Que puis-je faire pour t'honorer, maintenant qu'il est trop tard ? Je pourrais t'honorer avec la rugosité de ma peau, l'épaisseur de mes frontières, la chaleur de ma propre graisse. Je pourrais t'honorer avec mon calme et ma respiration, avec la portée de mon écoute, que j'entraînerais à être de plus en plus profonde. Je pourrais t'honorer par la lenteur de mes mouvements, contemplatifs et gracieux. Je pourrais essayer de te ressembler, même si l'on me dit que ce n'est plus à la mode. Et je me souviendrai de toi. Pas par le nom, écrit au possessif, de celui dont on dit qu'il t'a découverte, après des générations de relations indigènes. Je dirais, il était une fois une nageuse énorme et silencieuse, une amatrice de plantes, pleine d'écoute et à la peau rugueuse, une mammifère grasse et gracieuse. Et puis je me tairai pour t'entendre respirer. Puis je respirerai et tu me rappelleras de ne pas me précipiter. Et le temps, en moi, se taira. Et alors, nous écouterons vraiment. Au cours des 20 dernières années, les bioacousticiennes ont consacré beaucoup de temps à écouter différentes populations des grands dauphins dans la région Indo-Pacifique. Ces dauphins, comme la plupart des dauphins, savent reconnaître les sons émis de manière intentionnelle. Elles savent quand utiliser les hautes fréquences pour savoir où elles se trouvent et quand utiliser les basses fréquences pour communiquer avec toi quand le bruit ambiant devient trop fort. L'écholocalisation et la communication se chevauchent, mais elles divergent aussi. Parfois, les sons que je produis me servent à mesurer mon environnement. Parfois, j'ai quelque chose à te dire. En général, c'est les deux. Les dauphins utilisent la graisse de leur front pour moduler l'écoute de leur biosonar. Un procédé sans doute aussi sophistiqué que celui que j'utilise pour te parler. Parfois, j'ai l'impression de communiquer avec toi par des voies sous-marines. L'impact de ce que je dis dépasse ce que j'ai appris à dire à force de le répéter. Le bruit ambiant devient plus fort. L'océan se réchauffe et j'ai besoin que tu saches où se trouve le fond, ce qui va nous nourrir et à quelle distance se trouvent les requins. Parfois, mes prévisions me sont renvoyées en écho comme on renvoie une bonne gifle et je me rappelle alors que je ne sais rien. Je me rappelle que mon gros front a besoin de toi et de toutes tes prévisions pour survivre à cet espace sans cesse changeant. Ce qui veut dire que j'écoute humblement et que j'apprends à prendre la responsabilité de mes fréquences. Je peux les réduire pour communiquer avec toi. Je peux réfléchir avant de m'exprimer. L'écholocalisation n'est pas synonyme de télépathie. Sa magie tient à la complexité de la vie des mammifères qui habitent le son. Je peux entendre ce que je ne peux pas encore voir. Je peux créer un monde entier de résonance et y vivre, nager à travers lui, être ton écho. Siffle, clique, si toi aussi, tu peux sentir que je suis là. Je suis fascinée par tout ce que l'écoute peut faire, et à quelle vitesse il devient moins urgent d'être vu, de sauter dans les airs, de me montrer. Celles qui étudient les dauphins d'eau douce le savent aussi. N'essaie pas d'observer ces sages qui jamais ne sautent. Essaye plutôt de les écouter, de les entendre respirer. Je respire en prenant forme. Je façonne mes jours et la terre me façonne. Je façonne mon souffle pour qu'il serpente à travers les chemins sinueux qui s'offrent à moi. Je façonne ma tête pour qu'elle épouse le motif de mon souffle. Mon souffle est prière, la forme de la vie, le nom qui évolue. Tout ce que je peux voir, c'est le trouble qui dit que la vie bouge. Je reste dans la prière et je me tends vers toi pour écouter ton souffle. Chapitre 2. Respire. La respiration est une pratique de la présence. L'une des caractéristiques physiques qui nous rapproche des mammifères marines, il y a plus d'une façon de respirer dans l'Arctique. Demandez donc aux narwals, aux bélugas et aux baleines boréales. Les bélugas changent de forme. Elles ont évolué pour ressembler à la glace elle-même et se rassemblent dans les estuaires peu profonds, en chantant. Les narwals restent dans les eaux plus profondes, plus près de la banquise. Elles se sont fait pousser une corne pour la percer et changent de couleur au cours de leur vie. Elles n'ont pas besoin d'autres dents. Leur corne unique leur suffit. La baleine boréale dit que plus c'est gros, mieux c'est. Et elle se déplace seule. Assez forte pour briser la glace avec son crâne, assez ancienne pour se souvenir de ce qui s'est passé avant toute chose. Elle ne cesse de grandir. Et toi ? Il est peut-être temps de te rappeler qu'il y a plus d'une façon de respirer dans les profondeurs glacées et dans la chaleur de l'été. De remercier tes ancêtres pour la façon dont tu as évolué en présence des ours polaires, des harpons et d'autres menaces. De réfléchir à ce que tu veux changer, comment tu veux grandir, ce dont tu as besoin de te souvenir. Et moi ? C'est toujours toi que j'ai aimé, pas les élégances de tes stratégies. Je t'aimerai toujours, même si tu es maintenant plus grande. Je t'aimerai davantage que le temps passe ou qu'il remonte son cours, que la glace fonde ou que l'eau gèle à nouveau, que ton prochain mouvement soit de protection, de percée, de transformation, quel qu'il soit. Il y a au moins trois façons de t'aimer. Comme tu étais, comme tu es, comme tu seras. Je t'aime. Cela veut dire que je choisis de faire les trois.
Knock, knock, knocking on. store. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door.
C'était Avril Lavigne et c'était le choix de Chico. On est toujours sur Radio Royan 93 FM. Et ben maintenant, du coup, je vais vous faire une petite chronique sur la santé sexuelle des ados. Alors d'abord, pour les parents, les accompagnants d'ados qui seraient un peu inquiets. Alors non, c'est pas pire qu'avant, hein, arrêtez avec ces vieux discours réac. Juste l'âge des premiers rapports a reculé même, de 17,3 ans, il est passé dans les années 2000, pour les filles, il est passé à 18,2 ans, et pour les garçons, de 17,7 contre 17,3, voilà, bon. Ça sort du coup du dernier rapport sur la sexualité des Français qui a été dirigé par Nathalie Bajos. Et dans cette étude, on apprend aussi que les jeunes sont beaucoup plus créatifs que leurs parents. En tout cas, ils ont des pratiques plus variées. Mmh. Voilà. Et puis, je lui avais fait un petit texte pour les nombreux ados qui nous écoutent. Voilà. Alors, cher ado, ne le prends pas mal. Je vais faire des blagues. Tu sais que je t'adore. D'ailleurs, je travaille pour prendre soin de toi. Même si la Drôme veut m'empêcher de faire mon travail, je continuerai à le faire d'une manière ou d'une autre pour toi. Et oui, car comme ton corps, le monde change. Et il n'y aura plus de centre de santé sexuelle dans les bleds paumés de la Drôme. C'est-à-dire plus de lieux où tu peux venir parler de toi, de tes galères, tes relations, ta sexualité, librement, confidentiellement et gratuitement. On le dira pas à tes parents. Et même voir un médecin qui ne serait pas celui de tes parents, par exemple. Donc voilà, sauf si tu rejoins la lutte, peut-être, a priori, tout ça, c'est fini. Donc, pour pas te laisser en carafe, oui, c'est une expression de vieille, je vais te donner quelques pistes pour compenser. Comme tu ne pourras plus t'adresser à des personnes formées de vive voix, tu pourras toujours te rabattre encore sur ton écran. Oui, tu pourras joindre des professionnels, pas des profs qui ont fait 2 jours de formation et pensent pouvoir te parler cunnilingus en étant tout à fait à l'aise, des vrais professionnels de la question, qui ne te jugeront pas et te parleront vrai. Donc, tu trouveras chat et numéro de téléphone sur les sites ivg.contraception.sexualité, mais aussi parlonsexualité.fr et ton plan à toi. Les deux derniers, ils ont même une page Insta. Donc, tu trouveras plein d'infos aussi sur ces sites et aussi sur le site qui s'appelle On s'exprime, O-N-S-E-X-P-R-I-M-E. Mais ne passe pas quand même trop de temps sur ton écran car ça rend anxieux et dépressif. Et si tu subis du cyberharcèlement, il y a aussi le 3018 qui est un super numéro dédié pour t'aider. Et il y a même une appli 3018 qui est gratos pour t'aider à lutter contre le cyberharcèlement que tu subirais éventuellement. Et puis encore une fois, ne passe pas trop de temps sur ton écran parce que les injonctions contradictoires aux adolescents... C'est fréquent, du coup, c'était pour faire ressortir ça. Voilà, j'ai fini. Salut, les ados.
Et juste, tant qu'on est dans l'actu, Anaïs, cette fermeture des centres de santé sexuelle, c'est quand exactement?
Alors, ça ferme fin juin. Du coup, au 1er juillet, c'est fermé.
Donc, ça veut dire que tous les ados des villages drômois n'auront plus accès à de l'information ou de la prévention à partir du mois de juillet.
Voilà.
Ok, bon, on est...
Bah, sauf s'ils rejoignent tous la lutte, comme je salue, il y avait deux ados du lycée Briffaut à Valence qui étaient à la manif avec nous, qui avaient séché les cours et qui se sentaient super concernés, parce que oui, ça vous concerne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans la lutte contre la fermeture des centres de santé sexuelle et la baisse des subventions pour le planning, et parce que du coup, il va rester quelques centres de santé sexuelle qui vont devoir faire plus avec moins. Donc voilà. Rejoignez-nous.
Et quand même, c'est un peu étonnant parce qu'il y a plein, en tout cas dans les collèges, dans les lycées, les infirmières scolaires sont de plus en plus sensibilisées à ces questions. Et en plus, il y a des assos de jeunes LGBT par exemple, ou de même des jeunes féministes, enfin des filles qui se retrouvent, qui font des clubs ou des assos dans les établissements scolaires. Donc pour qui c'est important ces questions, quoi?
Ben oui, tout à fait. Et du coup, dans le Royan, le 9 avril au soir, on fait une projection pour parler de ça. Voilà, on ne sait pas encore ce qu'on va projeter, mais quelque chose qui nous parlera de ces sujets-là.
Et ben moi, pour continuer sur le petit moment santé des adolescents, moi j'avais envie de parler de santé mentale et psychique, parce que ben c'est quelque chose qui concerne. On a dit qu'il y avait des transformations dans le corps, mais aussi dans le psychisme. Et en fait, la santé mentale des adolescents et adolescentes est un sujet de plus en plus préoccupant, amplifié par la pandémie de Covid-19. Depuis 2020, il y a plusieurs rapports, tant nationaux qu'internationaux, qui ont alerté sur la montée des souffrances psychiques chez les jeunes, avec une augmentation notable des demandes de soins psychiatriques et notamment un problème d'offre par rapport à cette demande grandissante. Et voilà, donc ce phénomène s'est accentué par la crise sanitaire qui a fragilisé les jeunes déjà vulnérables. Il y a une enquête qui a été menée auprès de 9300 collégiens, collégiennes et lycéens, lycéennes en 2022 et qui révèle des résultats préoccupants sur donc cette santé mentale. En fait, la majorité des jeunes, ils se perçoivent en bonne santé. Mais seulement la moitié se sentent dans un bien-être mental satisfaisant. Donc un quart des élèves ressentent de la solitude et plus de la moitié souffrent de plaintes psychologiques récurrentes. Et puis il y a aussi 15% des jeunes qui présentent un risque de dépression et un quart des lycéens, lycéennes qui ont eu des pensées suicidaires. Dans ces enquêtes, on apprend aussi que la dégradation de la santé mentale est particulièrement marquée chez les filles. Parce que, les jeunes filles sont particulièrement touchées parce qu'elles souffrent davantage de troubles internalisés tels que les idées suicidaires, celles qui font la plupart des tentatives de suicide, les troubles du corps et les comportements d'automutilation. Alors, en faisant un peu mes recherches, là, il y a quand même un autre article qui est plus nuancé, parce que donc depuis 2020, il y a plusieurs rapports là qui soulignent l'augmentation des souffrances psychiques chez les enfants et adolescents. Mais si la demande de soins psychiatriques a augmenté, cela concerne principalement une minorité de jeunes déjà vulnérables. Et on l'a dit, donc les jeunes filles sont particulièrement touchées. Et selon Guillaume Bronsard, qui est un psychiatre de l'enfant et de l'adolescent à l'Université de Bretagne Occidentale, il n'y a pas d'explosion généralisée des troubles psychiques. Les demandes d'aide sont souvent concentrées dans les zones où l'offre de soins est plus importante. Cette situation est due en grande partie à une meilleure reconnaissance des troubles, mais aussi à une carence en pédopsychiatrie, malgré une augmentation des besoins. En fait, l'enjeu, selon les experts, c'est de sensibiliser et informer sans créer de panique, tout en assurant une meilleure prise en charge des jeunes en souffrance psychique. Donc ça fait le lien aussi avec ce qu'on disait avant sur la santé sexuelle, c'est que s'il y a moins de prévention et moins de lieux d'écoute, alors, comme les problèmes de santé sexuelle, on imagine que peut-être les problèmes de santé mentale vont continuer à augmenter. Encore une fois, il s'agit d'informer, de sensibiliser, mais sans gérer de panique. Donc voilà, c'est une information qui est à nuancer, mais quand même à prendre en compte. Et les lieux de soins en pédopsychiatrie, comme les centres médico-psychologiques ou les maisons des adolescents, sont saturés. Et la prise en charge est souvent longue, alimentant l'inquiétude des professionnels, mais aussi des parents. Alors, je rappelle qu'il y a un dispositif comme le Fil Santé Jeune ou le 3114 Prévention du Suicide qui ont été renforcés pour offrir un soutien accessible et anonyme aux jeunes en détresse. Et puis, dans ces études sur la santé psychique des adolescents, il y a quand même la question des réseaux sociaux. Alors, tu faisais des blagues autour de la question des écrans, mais en fait, l'usage des réseaux sociaux affecte aussi la santé mentale des jeunes. On parlait de cyberharcèlement qui se poursuit en fait bien souvent sur les réseaux sociaux, alors que c'était moins le cas quand il n'y avait pas tout ça, notamment à travers la pression sociale, les comparaisons. Et voilà, donc il y a des recherches qui s'intéressent aussi à l'impact de la déconnexion numérique. Et puis, pour conclure, je dirais qu'il y a la question de l'accès aux soins qui est due aux inégalités. Les inégalités d'accès aux soins psychiatriques sont un sujet clé dans cette question de la santé mentale des jeunes, et notamment dans les zones rurales comme chez nous, où les services sont saturés, que souvent les jeunes sont orientés vers Valence ou vers Grenoble, mais que les services en pédopsychiatrie sont déjà saturés. Donc voilà, ça reste quand même une population vulnérable et des sujets de préoccupation actuelle et dans les années à venir.
On a envie de dire qu'est-ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est la merde comme ça? Eh ben on fait
un blind test. Voilà, sans transition, après cette petite chronique santé sur la santé sexuelle et la santé psychique. Et ben moi, en fait, un peu dans ma lancée des années 90, j'avais envie de vous parler des séries, parce que autant il y a la musique quand on est ado, mais moi je regardais beaucoup de séries. Je sais pas vous, est-ce que vous rentriez du collège et vous affaliez avec un goûter sur le canapé?
Moi je propose qu'on vérifie ça dans les faits, c'est-à-dire est-ce qu'on connaît ce que tu vas nous mettre, et si on connaît, on peut dire oui, et puis si on connaît pas, bah malheureusement, on pourrait dire que non.
Voilà, et Gaëlle, t'as le droit de jouer. Hein. Et ben, c'est parti, on laisse les micros ouverts et on lance le premier extrait. Criez pas trop fort pour pas casser les oreilles des auditeurs auditrices.
Ok.
Je sais. Si, c'est Hartley Cœur à Vif.
Ah, bravo. Tu l'avais?
Drasic, ouais, je connaissais, mais j'ai bien regardé.
Il y a une nouvelle version maintenant, je crois.
Ah ouais? Ah oui, c'est vrai. Ils ont comme plein de super séries.
Est-ce qu'il y a encore
tout...
Drasic?
J'étais amoureuse.
Mais oui, j'étais amoureuse, ouais, bien sûr.
Ben, moi plutôt d'Anita. Bon, et du coup, Hartley Cœur à Vif qui se passait en Australie, et bon voilà, une des séries que j'ai regardées. D'ailleurs, je porte un peu un pantalon de baggy de skateuse aujourd'hui pour en hommage à Hartley Cœur à Vif. Deuxième extrait.
Ça me dit rien, ça.
Toi? Moi, ça me dit un truc, mais j'arrive pas.
Donne-nous des indices, là.
Ah, attends. Mais,
Des indices.
Galella, elle fait des signes.
Céline, des indices.
Ça se passe sur une colline assez huppée de Los Angeles.
Ah, attends, de Los Angeles? Non, je l'ai pas.
Des friqués, quoi. Des jeunes friqués.
Moi, je connais pas, je crois. Je peux pas vous aider, là.
Attends, je
bon, Gaëlle, aide-les.
J'arrive pas.
Oh non, mais là les auditoristes sont...
Attends.
Ils se disent, mais...
Qu'est-ce que c'est naze. Mais ouais, mais... Je sais pas, moi. On n'a pas répété avant.
Melrose Place. Quoi. Non, c'est pas ça.
Brenda, Brandon.
Mais oui, c'est ça. C'est pas Melrose Place.
Non,
c'est...
Ça commence par un B.
Brandon.
Beverly.
Beverly Hills.
T'as cassé les oreilles de Gaëlle.
Qui sont avec leur voiture à décapotable et tout là.
Ouais, c'est ça.
Les palmiers.
Et qu'on avait 15 ans et qu'on croyait qu'on aurait tous une voiture décapotable. Bon, moi j'ai 40, j'en ai toujours pas. Mais ok, suivant Gaëlle. Alors quand même, Friends, je tiens à dire que moi je regardais ça quand j'étais ado, j'enregistrais sur mes cassettes VHS dans un magnétoscope, c'était juste pour faire des blagues de boumeuse, mais quand même, je tiens à dire que c'était les premiers exemples de colocation, enfin pour moi en tout cas.
Ouais, c'est vrai, je crois que tu l'as déjà dit dans l'émission sur l'amitié.
Tout à fait.
Ben, comme quoi je me répète. Ok, on enchaîne.
On change d'ambiance là, il y a un truc là.
Ouais, on change d'ambiance, c'est un peu plus ancien, mais moi je regardais ça quand même quand j'étais, bon, plutôt enfant, j'avoue.
Des indices.
Attends. Non, vous allez trouver tout de suite.
Ah, il faut attendre un petit peu là, on y est là.
On y est.
Starkey Hutch.
Non.
MacGyver.
MacGyver.
Mais oui, combien y a-t-il de T dans MacGyver? Ta 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 ta.
Beaucoup, quoi. Heureusement qu'on est le 1er avril et qu'on fait des blagues dans le studio de Radio Royan. Ok, super. Prochain. Bah, vous allez. Moi, je regardais pas ça, mais si, en fait. Enfin, vous allez trouver.
Ah, attends. C'est quoi ça?
C'est les sorcières.
Charmed.
Oui, les sorcières. Charmed.
Ouais.
Quand même, il y a aussi une série un peu comme dans Buffy les vampires, avec des meufs qui ont des pouvoirs et qui sont les héroïnes, quoi.
Ouais.
Et qui ont un peu trop la classe.
Ouais.
Mais ça passait sur M6 et moi j'avais pas M6, je vous l'ai déjà dit. On enchaîne dans un autre genre.
Dawson.
Ouais. Dawson, ça se passe où?
je sais pas, dans le New Hampshire, hein, un truc comme ça.
Je me demande si c'était pas aussi en Australie, non?
Ah bon?
Peut-être que je dis de la merde. Hein.
Non,
je,
mais
je
il fait froid un peu chez Dawson, ils ont des bonnets des fois et tout.
Ça, c'est pour le style.
Ah ouais, peut-être.
Bon, voilà, alors là, c'était les amours, les émotions du jeune Dawson et de... Bon, bref, voilà. Mais c'était aussi une manière de voir que les mecs ont des émotions. Et ça, quand on voit ça, quand on a 15 ou 16 ans, c'est pas trop mal, me dis-je.
Voyons voir. Pas Joséphine, d'ailleurs Non, comment elle s'appelle? Là, il y avait une meuf, elle s'appelait pas Joséphine? Non, elle s'appelait pas Joséphine. Ouais, je croyais.
Suivante, dans un autre registre également.
Joey. Elle s'appelait Joey. Le prince de Bel-Air.
On se le laisse un peu parce que quand même c'est agréable.
Qu'est-ce qui se passait dans le prince de Bel-Air en fait?
Bah il est en choisi. Bah si, que des bonnes blagues.
Ah oui.
Je pense que ça a pas très bien vieilli. J'ai pas regardé d'épisode. Par contre, j'ai regardé le générique en les téléchargeant pour ce super blind test. Et quand même, en termes de comment dire, de graphisme, on est bien quand même. On est bien. C'est vraiment les années 90, quoi. Je vous invite à aller revoir le générique. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Bah, ils jouaient au basket et ils faisaient des canulars et ils avaient aussi plein de fric, non? C'est pas.
Il était adopté par une famille pleine de fric avec un vieux patriarche qui lui il faisait un peu des blagues et le remettait tout le temps un peu en question comme ça. Il faisait un peu des conneries et tout.
Ouais.
Je dirais ça.
Avec Carlson, son frère. Son pote, je sais pas.
Ouais,
bon, bref, désolé de ce blind test approximatif.
C'est son oncle et Carlson, ça doit être son. Ah non, je sais plus, son cousin.
Son cousin, peut-être, ouais.
Il y a un majordome aussi.
Ah ouais, il y a un majordome, ouais, ça, c'était quand même du fric. Hein. Mm. Ouais. Allez, on enchaîne.
X5.
Non.
Non?
Je suis désolé.
C'est pas X5?
C'est.
Jojo, on sent que tu regardais pas trop la télé. Hein.
Mais ouais, non, je suis assez nulle, hein, je suis désolée.
C'est parce que t'as grandi en Ardèche?
Arrête. Je ne dévoilerai pas de choses de ma vie privée, à part quand je vous parlerai de ma petite musique de fin dans cette émission. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, moi.
Oh, bon, ça se passe, ça se passe à l'hôpital. Ça se passe à l'hôpital.
À urgence?
Mais oui, c'est urgence.
Urgence,
ça, mais oui.
Jamais regardé Urgence.
Gaël,
c'est vrai?
Gaël, elle l'avait. T'as jamais regardé Urgence?
Alors, excusez-moi, mais c'est pas pareil de pas avoir vu Matrix et de pas avoir vu Urgence.
Moi, je suis désolée. Mais alors, en termes de sang, on est pas mal aussi dans Urgence, quand même.
Ouais, bon.
Franchement, si t'aimes le sang, t'aimes les trucs gore.
Non, mais j'aime pas le sang médical. C'est beaucoup trop lié à la vraie vie.
Ah oui, t'aimes bien le sang... Bon, on enchaîne.
X-Files.
Ouais, bah, ils viennent de le dire, les Simpsons.
Eh oui,
ah, oui.
C'était les Simpsons.
C'est tout noir.
Oui.
Moi, je crois que je regardais ça sur Canal+.
Voilà.
Bon, c'est
prochaine.
Un peu la seule qui sera un dessin animé. Enfin, je veux dire un film d'animation, quoi. Allez, prochaine. Je suis désolée pour... je m'excuse d'avance pour cette... bon, écoutez.
Ah, mais oui, mais ça on l'a même déjà mis nous-mêmes dans une fiction qu'on a faite. Mais que vous avez pas entendu à la radio, peut-être. Parce qu'on n'a pas passé à la radio.
Mais bien sûr que si.
Les maillots de bain...
Les maillots de bain rouges, les grosses bouées...
Et les gros boobs.
Et les gros boobs, bon...
Bref, tout est moulé-moulant, quoi. Dans cette affaire.
Tout est moulé-moulant.
Moulé-moulant mouillé. Allez, c'est bon. Bah, on passe à autre chose.
Mais dites-le quand même, le titre.
Bah, vous savez. Vous qui écoutez, vous savez.
C'était Alerte à Malibourne. Voilà, le remake royanais d'Alerte à Malibu. Alors là aussi, le générique est à regarder parce que c'est un peu comme le Prince de Bel-Air. Franchement, le graphisme, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est psychédélique, mais vintage, quoi. Franchement, c'est à regarder.
Sauvé par le gong.
Sauvé par le gong. Bah, heureusement qu'Anaïs est là, quand même. Hein.
Attendez, moi, j'ai jamais dit que j'allais sauver le blind test. Hein. Ça, c'était pas...
Sauvé par le gong, toi, tu regardais ça, Nanou?
Ouais, avec mon grand frère.
Ouais. Mm. Et ben moi, je regardais ça, ouais, au collège. Et quand tu... En fait, c'était de nouveau des blagues de collégiens. Franchement, je pense que ça n'a pas très bien vieilli non plus. Mm. Avec Screech. qui était quand même le gars qui s'en prenait plein la gueule. Oui, voilà.
Qui se faisait harceler, clairement.
Hein, ouais, on peut appeler ça du harcèlement aujourd'hui, mais ça, voilà.
Et alors, je vais le dire parce que mon frère, il écoute pas la radio. En tout cas, pas celle-là. Mais il se coiffait tous les matins, comme le mec de Sauvé par le Bon, comme ça, avec son petit peigne. Il avait sa coupe au bol et il se faisait l'arrêt au milieu et les petits, voilà, les petits trucs sur le front, là. Voilà.
Allez, moi je suis frustrée. On écoute le prochain. Je vais gagner un peu là.
Bah oui.
Aucune idée. C'est rigolo, mais je sais pas du tout. Je suis désolée.
Alice. Bien, moi non plus.
Bon, alors pour vous aider, ça ressemble un peu au Prince de Bel-Air dans le pitch. Hein.
Non, je vois pas du tout.
Tu l'as, Jean-Claude?
C'est Jean-Claude Arnold et Willy.
C'est Arnold et Willy, tout à fait.
D'accord.
Ouais, encore des noirs qui se font adopter par des riches blancs. Comme quoi, il y avait
dans
quand
le
même.
Le Prince de Bel-Air, c'est des riches noirs.
Ah ouais.
Mm-hmm. Ah ouais, il faudrait que je regarde. Désolé, j'avais pas la. Voilà, et alors, voilà, on peut enchaîner sur le prochain. Et alors, le prochain, moi, j'adorais. Vraiment.
Ok.
C'est mon best. Bon, ça se passe à San Francisco.
Mais c'est pas la fête à la maison avec les jumelles.
Il y a la maison dedans, mais c'est pas la fête à la maison.
Mais
si, c'est la fête à la maison.
Mais oui, c'est ça.
Non, avant t'as dit 7 à la maison.
Oui, tout à l'heure j'ai dit 7 à la maison.
Non, c'est la fête à la maison.
La fête à la maison, moi aussi j'adorais avec les deux jumelles là.
Ouais.
Et le générique qui passe sur le pont de San Francisco en voiture, tout ça.
Décapotable, sur
sûrement.
Une décapotable, ouais, ils sont tous dedans. Et pareil.
C'était le rêve des années 90, hein, la décapotable quand même.
Bah ouais, et quand même, c'était aussi une coloc. Hein. Mm-hmm. On se rappelle qu'il y avait Joey et l'autre, je sais plus comment il s'appelle.
Ah oui, c'est vrai.
C'était
peut-être.
Les tontons, là. Ils vivaient tous ensemble, en fait.
Oui,
hein.
Oui. C'était original.
C'était original pour l'époque, quand même.
Mais vu que je sais pas ce que c'est, ça avait l'air super.
Je sais pas si ça a très bien vieilli non plus.
Ashley et Mary-Kate Hanson, c'est comme ça qu'elles se sont fait connaître.
Et oui. Voilà. Tout à fait. Tu l'avais, Gaëlle ? Non. Bon. Allez, on enchaîne.
Ah. Celui-là, je le connais.
Mais qu'est-ce que ça peut bien
mais
être ?
Qu'est-ce que c'est ? Ça commence par un X. Ça finit par un S.
Enfin, un point pour Jojo. C'était X-Files, effectivement. Allez, le dernier, et après, on arrête, parce que bon, on va pas jouer à ça toute la matinée. On a aussi une fête à faire pour les 30 ans de de radio de Gaël. On a Marc qui dit ça dans le micro.
On sent qu'il y a de l'amour. Il y a du...
Direct des premières notes, il y a de l'amour, quoi.
Il y a de l'amour...
Seven Heaven, il l'a dit, hein. Comment ça s'appelait?
Tu l'as dit avant.
Ça veut dire 7 ciel.
Ah, c'est la fête à la fesse. Les 7 à la maison. 7 à la maison.
La fête de la fesse.
Et par
non,
contre,
pas du
ça,
tout.
Pour le coup, c'était méga réac, ça.
Ça, oui, c'était.
Ça, c'était méga
réac. Famille...
C'était une famille de protestants, de
avec
wasp,
enfant.
Comme on dit, quoi.
Ouais,
voilà.
Exactement. 7 à la maison. Ouais, bah, oui, désolé, oui. Je regardais ça aussi.
Moi aussi, j'ai regardé ça.
Ok, ben bravo pour ce blind test. Conclusion. Non, vous avez tout trouvé. Presque.
Mais j'ai pas brillé, mais bon,
pas brillé, mais
ouais, tu brilles ailleurs.
Tu brilles dans nos cœurs, Jojo.
Attendez, je vais briller là parce qu'en fait, je vais vous dire c'est quoi la chanson qu'on va écouter à la fin.
Ah oui.
Là, c'est maintenant.
Eh bien, la chanson qu'on va écouter à la fin, ça s'appelle Mon amoureuse du groupe Mansultia que tout le monde connaît maintenant. Mais moi, quand j'avais 16 ans, je suis allée voir un concert de Mansultia. Toute seule avec mes copines, et même qu'on avait débauché le frère d'un pote, qu'il venait d'avoir son permis, et que du coup il roulait à 40 à l'heure sur les petites routes du Puy-de-Dôme pour aller à Thiers, pour aller les voir, à 15h30. Voilà,
tu te rappelles de l'horaire, quoi.
Et j'ai regardé sur internet pour vérifier la date, puisque j'avais l'impression que c'était plus tôt, mais c'était pas si tôt que ça, mais quand même, voilà. C'est dommage que Montfilty n'existe plus, parce que c'est vraiment bien, et c'était déjà très très bien en 2006.
Quand même,
toi, ouais. T'avais des références.
Ouais, mais toi, t'étais avant-gardiste, en fait.
Moi, j'ai gardé que le meilleur, j'ai acheté tout le reste. C'est ça que j'ai fait, en fait.
C'est ça, moi, je regardais Sauvé par le Gong. Toi, t'écoutais Mansfieldia. Bah ouais, c'est ça la classe.
C'est ça de l'art de briller en société.
Exactement, voilà. Je crois que c'est la fin de l'émission.
C'est la fin de l'émission.
Moi, je dois vous dire que notre coup de cœur ce mois-ci, c'est l'émission de Micro Féroce, nos amis de Erdiwa, de février 2025, tout à fait récente, sur les liens d'amitié et de sororité. Une petite playlist qui fait du bien. Vous reconnaîtrez d'ailleurs des chansons que j'ai mis dans mon medley. Je suis contente.
Voilà. Il ne reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous.
Hein, mais oui.
Et de vos ados.
Et de vos ados, ou chers ados, prenez soin de vous. Vous qui nous écoutez beaucoup.
Arrête de faire des blagues sur le fait que les ados n'écoutent pas Radio Royan.
Pardon.
On en sait rien. Toi, t'écoutais la radio, Jojo.
Oui, t'es... voilà. Moi, j'écoutais la radio tous les soirs. J'étais collée à mon poste jusqu'à des heures improbables. Et j'écoutais beaucoup de merde, beaucoup de trucs sexistes, tout pourri.
Moi, pareil. Je vais pas dire quelle radio j'écoutais parce que je voudrais surtout pas leur faire de la pub.
Mais on l'a entendu dans tes silences. Voilà, prenez soin des ados, prenez soin de vous. Merci Gaëlle pour la technique. Et puis ben, au mois prochain dans les Noctules.
Ben non, puisqu'on va être sur Arte Radio.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Merci de nous le rappeler, voilà. Puisqu'on arrête.
On arrête, voilà. On va être payé. Décapotable, on va avoir.
Voilà. Ouais, à Beverly Hills, et on pourra rouler sur le à San Francisco, sur le pont là.
Ouais,
super.
Avec
super.
Un logo Arte Radio.
Alors, peut-être on écoute la musique avant de.
D'accord.
De ouais. Déraper totalement.
Allez, ciao.
Quelle était belle ma maman baline, vue sur une prairie solitaire. Ma belle étante sculpture androgyne, tu n'insistas pas pour me plaire. Je ne suis pas de celles qui bondissent sur le premier bijou souriant. Du temps il me faut pour que j'agisse, cœur de mousse modère ses battements. Sous une pluie moqueuse, je te vois t'éloigner de moi mon âme. Sous une pluie moqueuse, je te vois t'éloigner de moi mon amoureuse, telle une mer pressée. Où cours-tu ma fugitive, mon indécision t'a glacée, mais elle te réclame mon âme vive, tu m'as trop vite abandonnée. Tu m'as trop vite abandonnée. T'éloigner de moi mon amoureuse, telle une mer pressée. Sous une pluie moqueuse, je te vois t'éloigner de moi mon amoureuse, telle une mer pressée. Ancrée dans ma peau pensive, j'ai le sang bon de l'ingrate, une absurde rancœur à vivre, l'odeur d'une ivresse écarlate. Elle emporte avec elle ses pensées secrètes, son drap et ses dentelles, ses cendres de cigarettes.